C'est mon père, il a toujours un petit carnet où il note plein de choses qu'il entend. Par exemple, il va écouter la radio, il va entendre un mec dire une phrase un peu, une punchline un peu forte et il va la noter. Je me suis dit, ouah, j'aime trop ce délire de côte. Et sur Pinterest, les premiers trucs que j'avais, c'était pas des fringues ou des shapes ou des... c'était des côtes. J'adore les côtes.
Je dirais que c'est quoi en fait les valeurs que tes parents t'ont transmises et si tu peux illustrer ça avec des anecdotes ou des manières qu'ils ont eu de le transmettre.
Ma mère est extrêmement polie, respectueuse, bien éduquée avec des très bonnes manières. Mon père aussi, mais lui, c'est les choses qui m'a le plus transmis, ça va davantage être sur de la rigueur, de la discipline, du travail. Il a été coach et du coup quand j'étais petit, j'allais tout le temps dans son vestiaire de coach et il y avait une phrase qui m'avait marqué et que j'ai toujours gardé en tête, c'était « il faut souffrir pour être beau ». Mais c'était pas « il faut souffrir pour être beau » de manière physique, c'était pour être beau intérieurement. Et du coup, dès petit, j'étais bercé par ces petites taglines, ces petites punchlines, tu vois, qui sont arrivées pour moi à un âge où normalement on ne parle pas de trucs comme ça, tu vois. Et moi, j'étais déjà un peu sensible à ce genre de phrase, tu vois. Je me répétais tout le temps, il faut souffrir pour être beau. Et du coup, avec l'athlétisme en plus qui est arrivé, j'ai commencé à aimer me faire mal et à vraiment l'apprivoiser de manière hyper régulière. Et ça, aujourd'hui, je sais que c'est un énorme asset pour moi dans tout ce que j'ai pu construire par la suite. Et notamment maintenant en tant qu'entrepreneur, quoi, où cette valeur-là, de l'avoir aussi forte, d'être capable de chercher le kilomètre de plus et de me faire encore plus mal que le mec d'à côté, je sais que c'est à un moment donné un truc qui fait une différence.
C'est super intéressant. Du coup, donne-moi justement, là, quand t'es par exemple dans les derniers mètres ou la dernière traction, qu'est-ce que tu te racontes à toi-même, qu'est-ce que tu te dis qui fait que tu l'associes à une forme de justement « je vais être beau ».
Bah maintenant je fais des Ironman, tu vois, donc je suis encore reparti dans l'extrême et dans la souffrance à aller chercher ses limites. Et j'ai toujours les mêmes mécanismes mentaux un peu qui se mettent en avant, où en fait quand ça devient vraiment très dur et que c'est quasiment, ça devient entre guillemets l'horreur, je m'auto convainc que je suis un monstre, un mutant. Et je sais que tout le background que j'ai derrière et le fait de m'être mis très rapidement des séances de malade mental dans la tronche, des stages où on partait 3 jours et où tu te réveillais à 5 heures pour aller courir sur la flotte à 12-13 ans. Tout ça, ça m'a forgé et je sais que tout ce bagage-là, je m'en sers maintenant en mode « Attends, regarde d'où tu viens, t'as pas le droit d'abandonner quand les autres ont pas encore abandonné, tu vois. » J'arrive à me mettre dans cet état d'esprit en mode « Non, j'ai plus de bagages qu'eux, je dois faire mieux. » Et même, j'ai des messages que m'a envoyé mon coach d'athlé de l'époque. Il m'avait dit une phrase pareille qui me reste en tête, qui était qu'il l'avait jamais vue depuis moi. Et pourtant, ça va faire 20 ans qu'il entraîne un athlète aller si loin dans la souffrance. Et j'essaie de cultiver ce truc-là et de me le rappeler quand c'est dur, tu vois. En mode, t'as ce truc-là en toi. Tu l'as depuis que t'as tes 11 ans. N'abandonne pas, continue. Garde-le, préserve ce truc que t'as de plus que les autres.
Et t'arrives à le transposer au-delà de la partie physique?
Justement, c'est ça mon truc. Je l'ai jamais trop eu dans le travail. Je l'ai eu. C'est vrai parce que regarde, j'ai redoublé ma 6e, après j'ai eu un parcours scolaire un peu entre guillemets chaotique, j'étais pas un élève hyper studieux, j'étais pas travailleur après l'école, se faire mal je le dupliquais pas dans les trucs qui ne m'animait pas.
Mais aujourd'hui avec Cruel par exemple.
Si, j'arrive maintenant à le faire. Avec de la maturité, etc. J'arrive à se mettre ce petit supplément d'âme dans le travail que je fais, tu vois. Parce que c'est devenu un challenge qui m'excite autant que le challenge sportif.
Cruel, c'est ta marque, parle-en dire rapidement.
Ouais, c'est ma marque de vêtements, qui est une marque de streetwear, où je fais des drops, où je raconte une histoire et un gros storytelling à travers chaque drop que j'ai créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, et qui marche très bien, je suis super content, et où on a une grosse communauté de fans qui est à fond dans la marque. C'est une marque qui est très portée sur les émotions plus que sur le vêtement que tu portes, tu vois. Donc en fait, j'essaye à travers mon personal branding, des taglines, Run or Burn, Norris No Story, Kid With A Dream, d'embarquer les gens avec nous dans un côté un peu empowerment qui est fort. Et ça marche super bien parce que les gens, quand ils portent du Cruel Pancake, ils ont vraiment ce sentiment d'appartenir à un crew, un club où tu te sens fort, puissant et où tu te dis « vas-y, je suis capable de tout en fait ».
Je sais qu'il y a des fois des gens qui te disent « ouais, mais pour toi, c'est facile, etc. » et qui se rendent pas compte le travail qu'il y a derrière pour arriver à la carrière que tu as. C'est quoi le moteur qui te donne envie de te bouger aujourd'hui ?
Ce que j'aime, c'est embarquer les gens avec moi à se surpasser, à se dépasser, à réaliser leurs rêves, à se mettre en action. Et ce qui est le plus valorisant, c'est quand je reçois des messages de gens qui me disent, et je m'en suis encore plus rendu compte quand on a fait le premier event physique pour les 2 ans de la marque à Paris, c'était d'avoir des gens devant moi qui venaient et qui, j'en ai eu certains qui pleuraient, tu vois, qui étaient en larmes, qui me disaient merci d'avoir changé ma vie. Et je dis putain, c'est incroyable. On parle d'une marque de fringues, de textile, ou enfin, tu vois, et on me dit merci d'avoir changé ma vie, tu vois. Je dis grâce à Cruel Pancake, grâce à ton mindset, grâce à ce que tu communiques tous les jours sur les réseaux, bah voilà, j'ai pris cette décision là. J'étais malheureux, j'étais embourbé dans une situation où ça allait pas, et quelques taglines, quelques phrases, ton quotidien m'ont permis de me mettre en action. Depuis, tout a changé et je suis le plus heureux du monde. De réussir rien qu'à générer ça chez des gens que tu connais pas, que t'as jamais vu, et qui simplement consultent et consomment tes réseaux sociaux et ce que tu partages, je trouve ça génial, tu vois. Et je pense que tu le vis également toi avec tes coachings, avec ta faculté à via plein de choses à changer la vie des gens. Et en fait, au départ, t'as ce truc de waouh, ça paraît tellement démesuré, tu vois, par rapport à ce que t'as donné, et c'est tellement naturel en soi, parce que je me force pas quand je mets des stories. C'est ma vie, c'est mon mindset, c'est mon énergie, je suis pas en train de falsifier quoi que ce soit, je suis juste moi en fait, avec ma manière de parler, ma manière d'aller vers l'avant, ma manière d'avoir envie de poursuivre mes rêves. Et en fait, de voir que c'est aussi communicatif, et ben tu sais que là t'as trouvé le truc, tu vois, parce que d'une, c'est hyper cohérent avec qui tu es, t'as rien à forcer, tout est hyper smooth. Et de deux, les gens sont super réceptifs et trouvent vraiment un écho là-dedans. Et là, du coup, c'est là où j'ai réussi à me dire, ma zone de génie, entre guillemets, elle est là, dans ce pouvoir d'inspirer les gens. Et ça, je l'avais pas par le passé. En étant salarié dans une start-up, j'avais pas ce pouvoir d'inspirer, je vendais des solutions, tu vois. Donc, j'avais pas ce supplément d'âme qui me poussait à aller encore plus loin. Et de temps en temps, quand c'est dur, etc., j'ai juste à aller rapidement dans mes DM, je scroll 2-3 fois, je tombe sur 3-4 messages en mode « Merci de m'inspirer autant, merci pour tes stories au jour le jour et tout. » Et tu te dis « En fait, regarde l'impact que ça a. » Est-ce que t'as le droit, toi, d'abandonner maintenant ou de dire « Vas-y, ça me saoule juste par paresse ». Non. Et ça, c'est un vrai moteur, d'être porté par cette énergie et ce mouvement.
C'est vraiment très stylé, je trouve, ce que tu fais avec ta marque. Merci. J'adore ta com. On voit ça, il y a des gens qui peuvent se dire « Ah putain, je veux arriver à faire ça » et qui s'en veulent. Ouais. Potentiellement de pas arriver à avancer, ouais. Que le projet sort pas, que ça fait 2 mois que c'est pas sorti. Raconte-moi les débuts et prends le temps de nous raconter la galère qu'il y a avec ça.
Donc grosso modo, je quitte ABTesti pour aller m'installer à Londres avec Caroline que je venais de rencontrer. Je commence à faire un peu d'influence, de mannequinat, etc. Et Caroline, elle a 4 business à ce moment-là, elle arrête pas de bosser comme une acharnée. Et moi, je suis à côté, à avoir juste quelques collabs de temps en temps, à faire un shoot par-ci par-là, aller à la salle de sport, à flâner. Et je me rends vite compte que ces deux vies, elles vont rapidement être incompatibles, tu vois. Et que la vie de, c'est pas père au foyer, mais de, tu vois, chill et ma nana qui charbonne à fond. J'ai aucun ego et je m'en fous, tu vois, j'étais là pour l'aider, pour l'accompagner, etc. Mais je sais que c'est pas ma vie. J'ai pas envie d'être comme ça et d'être à côté et puis d'assister toute ma vie.
Ça te renvoyait par contre des fois au côté j'avance pas assez, je réussis pas assez à ses côtés?
Bah malgré tout, ouais, tu vois, sachant qu'elle était déjà à un niveau qui était relativement élevé. Ce qui était cool, c'est que je savais que je pouvais faire une pirouette et j'avais un master 2, j'ai fait une école de commerce et tu vois, j'ai un bagage. Je suis rentré chez ABTesti à l'époque, j'étais le 7e, maintenant ils sont 400, enfin tu vois, j'ai des belles expériences dans des belles boîtes, j'ai appris beaucoup, j'avais des belles compétences, mais malgré tout, tu te dis j'arrive dans un truc où waouh, c'est quoi la next step, tu vois? Ok, je fais de l'influence, je fais des photos, mais bon, tu tournes vite en rond. Sur la partie pro, à ce moment-là, je me dis, je vais devoir trouver mon truc et faire quelque chose parce que sinon, ça va créer un trop gros déséquilibre. Et donc, j'ai essayé de trouver mon truc et je me suis dit, on est parti à Los Angeles en voyage. J'ai trouvé des vêtements dans une friperie à Melrose. Je suis rentré avec en France et j'ai commencé à mettre des photos. Et les gens étaient, oh, il est où ton pull? Il est où ton sweat? Il vient d'où ton sweat? Incroyable, où on peut choper ça? J'ai cherché des équivalents pour les proposer aux gens sur les réseaux. Impossible de trouver un équivalent. Je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire, tu vois. Je vais lancer ma marque de fringues. Et du coup, je rentre à Londres et puis là, je commence à monter ma marque de fringues. Je mets un peu d'argent pour prendre une styliste designeuse et je l'appelle Cacahuète et Citron Vert. Je fais ma DA, je fais mon truc. Là, il y a Danse avec les Stars qui arrive. Je me dis, bah génial, ça me permettait de placer mes produits sur le tournage parce que pendant les entraînements, je peux mettre du Cacahuète et Citron Vert. Sauf que, interdiction de mettre des marques. Donc, du coup, ils mettaient du gaffeur sur le cacahuète et citron vert. Donc, on n'a jamais vu cacahuète et citron vert à la télé. Je sors de l'émission et je me dis, bon, je vais pas abandonner mon projet, tu vois. Il se passe 3-4 mois parce que, du coup, j'ai des collabs. Je suis pas mal demandé. Je fais plein de choses après Danser avec les Stars. On re-rentre à Londres et je me dis, bon, je reprends la marque. Et là, quand j'en ai parlé à plein de potes et que je commence à un peu plus en parler, ils me disent, t'es quand même sûr de ton nom? Ça fait un peu kids, quoi. Cacahuète et citron vert. T'es une marque streetwear. Tu veux être un peu hype. t'as pas peur que... Et je finis par me dire, ah, y a peut-être un truc qui déconne un peu, tu vois. Et quand il y a un doute, il y a plus de doute. Et du coup, je me dis, vas-y, attends, je crois que je vais trouver un autre nom. Et du coup, je trouve Cruel Pancake. Pancake, parce que à ce moment-là, Marlon, il est tout petit et il commence à parler. Et quand on lui demande comment il s'appelle, il dit Pancake. Je sais pas pourquoi. Et je sais que la marque, elle est des inspirations californiennes. Là-bas, je mangeais des pancakes délicieux et que c'est très US spirit, ce côté pancake. Donc, je me dis Pancake, j'aime bien. Et ma devise, entre guillemets, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est un peu ça ma tagline, j'aime bien. Et je trouve que ça fait trop se prendre au sérieux d'appeler son nom de marque par son propre nom, donc je voulais un truc qui veuille rien dire. Et là, Pancake, je me dis c'est cool, et je cherche un truc un peu disruptif qui aille avec, et je trouve Cruel Pancake, qui veut en soi absolument rien dire.
Mais tu cherchais quelque chose qui, entre guillemets, le pancake a le côté, je sais pas, gentil. Enfin,
ouais.
Tu cherchais un truc qui aille contraster avec
exactement.
Un côté dark.
Exactement, c'est ça. Parce que j'aimais le côté, pas bipolaire, mais le côté, t'as toujours deux faces un peu, tu vois. Et moi, j'ai ce côté. Et en fait, Cruel Pancake, maintenant, dans le brain book ou dans mon deck, si tu veux, l'idée, c'est de dire, à chaque fois qu'on fait un drop ou qu'on balance une collection, il faut qu'on raconte une histoire qui a du sens. Le côté soit powerful, impactant, empowerment, soit le côté fun, pancake, tu vois. Et c'est un peu les deux facettes de la marque. Sauf que je l'avais jamais écrit noir sur blanc en créant le nom de la marque. Ça, c'est arrivé au fur et à mesure en me disant, putain, tu vois, j'ai pris conscience que, ouais, en fait, ça match avec ce faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.
Ça prend combien de temps après? Parce que je crois qu'il y a toute une phase où tu annonces à tout le monde que tu vas la créer.
Ouais, pareil, ça prend un an et demi, je crois.
Un an et demi.
Ouais.
Et pendant ces un an et demi, t'es comment avec toi-même? Tu te juges? Qu'est-ce qui fait que ça prend longtemps d'ailleurs?
C'est que je connais absolument rien à l'industrie. Je suis candide qui débarque là-dedans, quoi. Et ça a eu énormément d'avantages d'être complètement décorrélé de la réalité, de pas me rendre compte de la réalité du terrain et dans le mur dans lequel j'étais en train de foncer tout droit. Parce que du coup, ça m'a permis de faire des trucs qui étaient presque inconscients. Où normalement, tu te dis, bah, fais pas ça, tu vas droit dans le mur. Mais ça m'a permis d'apprendre et de progresser, de faire ce que ça en est. Et j'aurais rien fait si j'avais eu conscience de, en fait, de la complexité, la difficulté de faire une marque de fringues, tu vois. Et c'est dur si t'as pas des grosses ressources au départ de lancer ta marque de vêtements. Faut vraiment s'accrocher, quoi. Et moi, j'ai la chance d'avoir l'influence à côté qui me rapporte de l'argent, heureusement. Donc ça me permet, en gros, de dire c'est du kiff.
Mais là, tu savais que tu as tiré au bout ou t'as douté à un moment donné?
Oh, je crois que je me suis même pas posé la question. J'étais go with the flow, quoi. Ouais, c'est cool, il y a un peu d'engouement, les gens suivent, c'est ma première aventure entrepreneuriale, tu vois. Et en fait, j'ai créé à travers ce truc-là, en montrant mes galères sur les réseaux, bah, tout un storytelling qui a été énorme et qui a énormément aidé la marque à son lancement, quoi. Parce que j'ai montré ce que c'était de commencer l'entrepreneuriat d'une alors que tu connais absolument rien, de se lancer dans le business du textile alors que tu connais absolument rien. Il n'y avait pas de benchmark, pas de business model, il n'y avait rien. Walou. Non, mais c'est vrai, quand j'y repense, c'était du suicide. Moi, ma valeur ajoutée, c'est d'inspirer les gens via mon mode de vie, via ma détermination, via cet affect qu'ont les gens pour moi.
À quel moment ça a été conscient là, de se dire je vais mettre ça dans ma marque?
Bah, très rapidement, parce que la première tagline, c'était No Time for Romance derrière mon t-shirt, tu vois. Le premier t-shirt que j'ai lancé. Donc intuitivement, déjà, je sais qu'en allant sur Pinterest, les premiers trucs que j'avais, c'était pas des fringues ou des shapes ou des... C'était des côtes. J'adore les côtes.
C'est quoi tes top 3 favorites?
Oh, je sais pas, j'en ai tellement, je peux même pas t'en sortir comme ça, tu vois. Mais même quand j'étais petit, enfin, je sais que toute ma jeunesse, c'était le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme, tu vois. Ça, c'était un truc que je gardais tout le temps en tête.
C'est Churchill, ça, non?
Churchill, exactement. Ou même le il faut souffrir pour être beau. Je me suis tout le temps répété des trucs en permanence dans ma tête qui m'ont toujours aidé, tu vois, et qui m'ont un peu guidé. Et du coup, quand j'ai lancé ma marque, je me suis dit, ouah, j'aime trop ce délire de côte, tu vois, de porter des fringues avec un message où tu le portes, tu dis, ouais, tu vois. J'adore Nike. Pourquoi? Le just do it. Juste ouais. Just do it. Tu vois? L'image, les athlètes qui véhiculent la marque. Ce qu'incarne la marque, ça me parle. Et du coup, je veux porter ces fringues-là. Et pour moi, c'est ça les marques de demain. Il y a Danse avec les stars qui arrive. Et okay, donc, je fais Danse avec les stars.
T'es stressé ou pas de faire ça?
Ouais, quand même un peu.
C'est quoi le truc stressant pour toi?
C'est que j'ai jamais fait de télé. C'est que je vais être en prime time sur TF1 à faire de la danse, qui est un truc que je maîtrise absolument pas, que j'ai jamais fait de ma vie.
Tu dis oui quand même.
Je dis oui parce que le challenge, il m'excite, tu vois. De me dire, je dois me former à la danse et réussir à être bon, tu vois, sur un truc que je maîtrise pas du tout. Et puis, il y a aussi ce délire de se dire, c'est du TF1, samedi soir, prime time. Je sais que ma grand-mère va me voir au fond de la Bretagne. Enfin, tu vois, et ça va me donner une petite légitimité en mode, c'est plus que le mec de Caroline Receveur, tu vois. Et cette étiquette, en le faisant moi en perso, tu vois, et bah je me suis dit ça va me légitimer un petit peu plus.
C'est quoi le moment le plus ouf de cette période, de cette émission, pour toi?
J'étais obligé d'aller chercher un coach pour m'aider sur toute la partie stress et gestion des émotions à ce moment-là, parce que sur les primes, j'étais capable de m'entraîner pendant 3 semaines sur une danse, de la maîtriser, mais vraiment à la perfection absolue. Et le jour du prime time, t'es en direct sur TF1, t'es dans une salle blindée de monde, avec des lights, avec ton jury sur le côté. Tu sais que t'as, entre guillemets, pas la France entière, mais t'as beaucoup, beaucoup de monde qui te regarde. Ma famille, mes potes, tout le monde.
Ouais, le stress de ouf.
Et tu sais que tu tombes, ça coupe pas. C'est, tu tombes sur TF1 en prime time à 21h un samedi soir sur un truc que tu maîtrises pas. Et du coup, quand le rideau est fermé comme ça avant qu'il s'ouvre, je perdais complètement mes moyens. Ils parlent de toi, ils montrent au magnéto, si tu veux, toute ta semaine d'entraînement et tout. T'es là, t'es avec ta partenaire à côté et tu sais qu'il y a le décompte. Et là, c'est un stress, mais ultime. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Tu trembles, tu dis, what the fuck. Parce que tu sais qu'en plus, il y avait plein de fois où t'as la répète la veille et très souvent, je ratais ma répète.
Ah, la flemme.
Ah ouais. Et t'as pas le droit de le refaire parce qu'en fait ça tourne. Il y a les autres qui doivent le faire après. Le jury regarde et t'as le droit de faire 2 fois ta répète. Mais si t'as raté 2 fois, bon, pas grave, à demain, tant pis pour toi, tu vois. Et là tu te dis, waouh, je l'ai jamais réussi en vrai sur le floor, tu vois.
Et toi, pour arriver à bien te comprendre, la peur c'est quoi? Quand tu dis justement là je peux rater, c'est quoi?
C'est l'enjeu en fait. Pour moi, je me dis, je vais être la risée, tu vois. Je me dis, ça va être la honte, quoi. Pourquoi je m'affiche? Pourquoi je m'inflige ça? Je suis pas danseur, j'ai rien fait, tu vois. Il y a plein de gens qui me connaissent pas. Je vais me taper une honte phénoménale en me cassant la gueule, en dansant mal, en étant éliminé, tu vois. Et puis, je suis compétiteur. Donc, je me dis, si je fais cette émission, je veux aller au bout. Et je prends un coach à ce moment-là. Et là, ça me débloque complètement.
Il fait quoi?
En gros, il me dit quelques phrases clés qui sont plus de jeu que d'enjeu.
Ok.
Je fais un peu de cohérence cardiaque. Je redescends tout. Et je me répète, plus de jeu que d'enjeu. Et en fait, de me dire plus de jeu que d'enjeu, je me dis, vas-y, même si je tombe, qu'est-ce que ça va changer?
C'est clair.
Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et je finis par me dire, ouais, en fait, vas-y, viens, on s'éclate. C'est un jeu, on s'en fout. Et en fait, même, il m'a fait prendre conscience, il m'a dit, si demain tu tombes, si demain tu tout ce que tu veux t'es éliminé, tu rentres le soir chez toi, qu'est-ce qui t'attend? Ta femme, ton fils, ils sont là, dans le lit, ils t'aiment. Je dis, ouais, il y a quoi de plus important? Je dis, rien. Alors qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu vois? Et c'est des tout petites phrases comme ça, des petits trucs, et boum, ça te fait le déclic. Ouais, et à partir clair. De là, j'ai fait une session avec lui, je me suis répété ça, et j'ai dit, waouh, ouais, ça marche. Vas-y, en fait, je m'en fous, tu vois. En plus, j'ai tendance, moi, à être un mec dont toute mon enfance, adolescence, à être plutôt détaché, tu vois. J'ai toujours été un peu, pas je m'en foutiste, mais j'ai jamais été le mec à stresser, à me prendre la tête, tu vois. Surtout avec l'école, avec le truc, j'étais pas un branleur, mais j'avais ce côté. Sauf que plus l'enjeu grossissait, plus l'impact médiatique était gros, plus j'ai commencé à rentrer dans ce truc en mode ouh, tu vois, ça devient huge et je me suis infligé cette auto-pression. Et en fait, de réussir à redescendre d'un étage en étant à ce niveau-là, bah ça m'a vraiment apporté par la suite. Je sais pas si t'as vu mes stories, mais je suis monté un peu au créneau parce que j'en avais ras-le-bol. Je mets un texte en mode voilà pourquoi j'aime autant me lever tôt. C'est que d'une, t'as le temps de faire un truc incalculable de choses parce que 8h15, j'ai réussi à faire 4 trucs énormes, quoi. Courir 1h20, boire un jus, partager un moment avec mon pote, faire un bain froid et une séance de stretching. C'est magique, tu vois. Le pouvoir que ça a. Et t'as toute ta journée devant toi. Et de deux, je dis en plus de ça, t'as ce truc. Moi qui marche beaucoup pour moi, qui est quand tu te lèves plus tôt que les autres, t'as l'impression d'avoir un avantage concurrentiel sur eux, tu vois, d'être un peu un mutant. Je suis en train, moi, de m'envoyer sous le cagnard 1h20 de training quand tout le monde dort, tu vois. Et derrière, ça te donne un truc en mode, quand tu veux venir me tester ou me challenger, vas-y, viens, il y a du répondant. Je sais que moi, je fais ça, que toi, tu fais pas. Tu vois un peu le délire? Et bref, donc je partage ça sur les réseaux en disant qu'en plus, c'est un vrai boost de motivation, de confiance en soi, de se lever très tôt, en plus d'avoir ce laps de temps super intéressant à exploiter par la suite. Et j'ai une nana qui me répond, c'est facile pour vous, avec la chance que vous avez, sans contraintes professionnelles et familiales. Désolé, mais ça se voit que vous êtes des branleurs finis. Toi avec ton Indabank, j'ai un podcast qui s'appelle Indabank, j'ai un slogan que j'appelle Indabank, et en gros le Indabank c'est de dire chaque petite action que tu viens mettre dans ta banque, et eh ben tu la comptabilises, donc ça veut dire que tu peux aller marcher 20 minutes tous les matins, c'est déjà bien. Le fait de se mettre en action, c'est valoriser l'action, et pas dire aux gens il faut faire des Ironman comme moi, non, juste mettez-vous en action, faites des petits pas et mettez des petites pierres jour après jour, et à la fin ça va vous permettre d'arriver à vos objectifs, aussi petits ou aussi gros soient-ils, tu vois. Mais j'aime bien ce délire de Indabank. In Da Bank, tu vois. Et bref, avec ton slogan de In Da Bank à la con, qui veut rien dire, avec vos égos surdimensionnés, vous foutez rien de votre journée, c'est facile à Dubaï, machin, enfin le truc de base, tu vois. Et ça m'a saoulé de le lire. D'une, je suis dans une phase, là, si tu veux, de lever de fond sur Cruel Pancake, donc okay. Je suis à bosser 60 heures par semaine, à faire des meetings, à travailler mon deck, à travailler la vision, la stratégie, à gérer le drop qui arrive dans 2 semaines. Vraiment, j'arrête pas de nuit et jour. Je me force à me lever à 5 heures du mat tous les matins pour réussir à faire ma séance, à avoir le laps de temps nécessaire pour pouvoir tout faire et faire tous mes meetings dans la journée après. Et elle vient à ce moment-là me tacler, tu vois. Je dis, ah non, c'est pas le bon moment. Je réponds collectivement, je dis, ces gens-là, là, ceux qui ont ce truc-là, et ils conscience d'une chose, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de question de chance, c'est que des décisions, tu vois. J'ai dit, par exemple, ils disent, c'est facile avec vous, pas de contraintes familiales, professionnelles. Je dis, pensez pas qu'on est né avec les poches pleines, qu'on est arrivé à Dubaï, qu'on nous a pris par la main, qu'on nous a dit viens ici, installe-toi dans une maison, qu'on te paye, que ma grand-mère me paye ma nanny, mon chauffeur, et, etc. C'est pas le cas. Non, mais tu vois, c'est tout ce qu'on a. On a été le chercher, on a travaillé pour, et on l'a entre guillemets mérité. Tu vois, on nous a pas tout mis dans les mains. C'est dire que le succès c'est une décision. C'est pas, enfin pour nous en tout cas, il y a pas de facteur chance qui existe. Et la nana en gros me fait comprendre que bah je bronze au bord de la plage toute la journée. Je dis non, je vais pas filmer des fichiers Excel ou des collègues, des logisticiens ou avec un tel toute la journée, c'est impossible. Donc évidemment, les moments que je filme, c'est le sport le matin ou le soir quand je joue au foot avec mon fils pendant un quart d'heure avant qu'il aille se coucher au lit, tu vois. Mais évidemment, eux ils font l'amalgame, bah il fait un peu de sport, il joue avec son fils et il se passe rien entre les deux. Entre les deux, il se passe 12 meetings, des prises de tête, des prises de risque, etc. Tu vois. Et la deuxième partie que j'ai mise en avant, c'est que je me rends compte maintenant, je suis en veille constante, comme un petit robot qui est en permanence en train de me nourrir d'articles, de vidéos YouTube, de podcasts. Par exemple, sur mon Insta, je suis quasiment que des trucs qui m'inspirent. Je vais suivre des gens comme toi, tu vois, où je tombe que sur des vidéos inspirantes, motivationnelles. Sur YouTube, je suis que des trucs, des vidéos où c'est du benchmark de marque sur le streetwear, où ça parle de start-up, où ça parle d'investissement, où ça parle de levée de fonds. Je lis que des articles sur Hypebeast, iSnobeauty, sur Les Échos. Je regarde plus Netflix, je regarde jamais de match de foot, je regarde jamais la télé, je regarde pas de films, je discute pas avec mes potes sur les réseaux. Je fais que ça en fait. Dès que je suis sur mon téléphone, c'est pour me nourrir. Ou pour partager sur les réseaux parce que c'est mon gagne-pain.
C'est quoi un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné ?
Mon père est un vrai mentor pour moi et du coup, il a toujours un petit carnet dans sa voiture où il note plein de choses qu'il entend via diverses sources. Par exemple, il va écouter la radio, il va entendre un mec dire une phrase, une punchline un peu forte et il va la noter. Et il a des trucs comme ça qui datent d'il y a 15 ans. Et il y en avait une que j'aimais bien, qu'il avait noté, c'était « Si c'est pas moi, ce sera un autre, alors pourquoi pas moi ?» Et une autre aussi, c'était de dire « Le fait de pas saisir ta chance, c'est laisser la place à la médiocrité de triompher. » Et je vois trop de gens médiocres réussir et ça m'énerve, ça m'agace. Et je vois pas assez de gens talentueux, j'en vois trop dans l'ombre. Quand t'as du talent et quand t'as un, tu sais, God's gift, t'as pas le droit de le laisser dans l'ombre et de le garder pour toi. Parce que tu laisses la place à des gens médiocres, qui ont rien, qui sont moins bons que toi, et ben la place de s'exprimer et de réussir. Et il y en a plein, hein, des gens qui sont grande gueule, où tu dis, bah, ils ont rien de plus que les autres, mais ils y arrivent. Juste parce qu'ils ont une grande gueule. Maintenant, viens avec toi, tes compétences, tes qualités, et sois à ta place, parce que c'est pas leur place à eux. Mmh. J'aime bien ce truc-là, tu vois, parce que de temps en temps, quand tu doutes de toi, tout le monde doute, et tu vois, et tu te dis, est-ce que je suis à ma place et tout, bah ouais, je suis à ma place en fait. Et même peut-être plus à sa place que lui, tu vois.
En tout cas, on sent le côté compétitif. C'est quoi une chose que tu crois que d'autres considèrent comme faux ou comme une folie ?
Bah peut-être ce truc de que tout le monde peut réussir.
Que tu crois ?
Ouais. Je suis persuadé que tout le monde peut apporter ta situation, tu peux t'en sortir. Et j'ai plein de gens là, tu vois, suite à mes messages qui me disent non, il y a des gens qui sont embourbés, bloqués, qui réussiront jamais. Mais je suis sûr et certain qu'à un moment donné, il y a toujours petite étincelle, un truc, et si tu veux vraiment la chercher, tu la trouveras. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont convaincues que les choses sont figées, que tu vois, moi, il y avait des gens qui me disaient « Bah, toi, ta chance, c'est d'être beau. » Je dis « Bah, je peux trouver une qualité chez tout le monde, quoi. Toi, ta chance, c'est d'avoir une jolie voix. Moi, j'ai une voix de merde, tu vois. » Et enfin, tout le monde, dans ces cas-là, a une chance par rapport à quelqu'un d'autre qui l'a pas, tu vois. C'est ridicule de toujours trouver quelque chose, quoi. Mais les gens, ils s'auto-persuadent, en fait, que ils réussissent pas, c'est parce qu'ils ont pas eu les mêmes choses. Il leur manque quelque chose.
Et ça, c'est super intéressant. J'ai une de mes citations préférées, c'est celle d'Einstein. C'est « Si t'es un poisson et tu te compares à un singe, à sa capacité à monter à l'arbre, tu vas te sentir stupide toute ta vie. » Et en fait, effectivement, si t'es quelqu'un qui a un physique lambda et tu te compares à Hugo, tu vas te dire merde, j'ai pas ça, mais potentiellement t'as autre chose.
T'as autre chose, bien sûr.
Et effectivement, si tu passes ton temps à regarder ce que les autres ils ont et pas regarder là où toi t'as ta zone de génie, alors qu'il y en a forcément une, Ça peut être ta voix, ça peut être ta manière de réfléchir, ta manière d'organiser, ta capacité créative. Bah, tu vas passer à côté de ta vie.
Complètement.
Si là, pour terminer, imaginons qu'il y a une porte, tu prends une machine à remonter le temps, tu peux revenir dans le passé, parler à l'ancien toi. Ça peut être le jeune qui vient de redoubler sa sixième, ça peut être plus tard, plus tôt. Qu'est-ce que t'aimerais dire à l'ancien toi ?
Je dirais de faire la même chose.
Continue.
Tu vois ? Ouais, parce qu'en fait, c'est tout le process qui m'a mené à où j'en suis aujourd'hui, tu vois. C'est toutes ces embûches, tous ces redoublements, tous ces... et encore, il y en a eu d'autres derrière. Hein. Sans tout ça, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui, donc ce serait juste continue. Juste, continue. N'arrête pas, tu vois. Et c'est ce que j'ai toujours fait. C'est que j'ai toujours, même si en prenant des gamelles, je suis toujours remonté à vélo. J'ai toujours continué. Et ce passage à l'action, c'est justement ce que j'essaye de revendiquer aux gens. C'est peu importe la situation dans laquelle t'es, peu importe si tu te sens embourbé, si t'as l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, juste continue.
Et à ton fils, il y a quelque chose que t'essayes de lui transmettre ? T'as envie de lui transmettre ? Si là, par exemple, il pouvait retenir qu'une seule chose de son père, t'aimerais qu'il retienne quoi ?
J'adore la notion de travail, d'amour et de bienveillance. Ça, c'est trois notions pour moi qui sont fondamentales, tu vois. Intuitivement, s'il y a de l'amour, du cœur, il y aura du travail et tu n'auras même pas besoin de le forcer. Et rester bienveillant dans tout ce que tu fais, tu vois. Je trouve que c'est une notion qui a un peu disparu dans notre nouvelle génération, tu vois. La génération de nos parents était plus bienveillante, je trouve, tu vois. Plus à céder, moins à se tirer dans les pattes et tout. Même les réseaux sociaux, ça a fait que colporter, tu vois. Tout, c'est un tas de méchanceté gratuite. Si tu as de l'amour, de la bienveillance, que tu travailles, t'es sûr de réussir.
T'as une vie de ouf. T'as des personnalités, je sais pas, américaines par exemple, où ça serait vraiment ouf pour toi de les rencontrer ou de faire une collab avec eux. Moi, je me suis pris un gros râteau, entre guillemets.